Le rien est l'objet du désir.
Alors, le verrou de Fragonard a été l'occasion d'une surprise particulièrement grande. Le tableau est assez petit, une dimension tout à fait moyenne. Vous connaissez plus ou moins l'image, c'est-à-dire sur la droite du tableau, le jeune homme qui enlace, tient par la taille la jeune femme et qui, de la main droite, pousse le verrou, de manière tout à fait réaliste, parce que s'il peut le pousser juste du bout du doigt, avant que ce soit une métaphore de ce qui va se passer, enfin peu importe. Mais ce verrou lui-même, déjà, est un objet, un détail intéressant du tableau, et il la tient, donc la jeune femme est serrée contre lui, à la fois elle se pâme et le repousse, et toute la partie gauche du tableau est occupée par le lit. Un lit en désordre, un extraordinaire désordre, avec les oreillers, les draps défaits, le baldaquin qui pend, etc. Bon, et un spécialiste de Fragonard a eu cette formule, je trouve, admirable pour décrire le tableau. Donc à droite, le couple, la jeune femme se pâme, etc. Et à gauche, rien. Rien, c'est extraordinaire, parce que c'est la moitié du tableau, la moitié, il n'y avait rien. Oui, rien, mais alors, oui, il avait tout à fait raison, ce spécialiste, puisque c'est ce rien que j'évoquais il y a quelque temps, et qui est la chose elle-même. Rien, c'est reste, la chose. Bon. Et effectivement, rien, c'est-à-dire, il n'y a pas de sujet, là. Il n'y a pas de sujet, il y a juste des plis, des draps, de la peinture. Il n'y a que de la peinture, c'est des drapés, des plissés, etc. Et donc, comme tout le monde, j'admirais le verrou de Fragonard, parce que j'étais censé admirer le verrou de Fragonard. C'est un très beau tableau, même si c'est tout petit. Et puis, j'ai eu une surprise, c'est que les oreillers du lit étaient vraiment anormaux, parce qu'ils avaient des coins tellement dressés que c'est pas normal que des oreillers et l'angle de l'oreiller dressé comme des pointes levées vers le haut. Tiens, mais qu'est-ce que me montrent ces pointes? Moi, j'ai vu que le baldaquin s'ouvrait un tissu rouge, s'ouvrant légèrement, avec une belle fente allant vers l'obscur, etc. Un baldaquin invraisemblable, d'ailleurs, puisqu'il y a un verrou ridicule de chambre de bonne. Comment y aurait-il un tel baldaquin d'une chambre de bonne? Mais par contre, je comprends que ce repli noir à l'intérieur de plis rouges, évidemment, peut avoir du sens par rapport à ce qui va se passer. D'autant plus que le drap, finalement, qui était là, ce drap de lit, qui fait l'angle du lit au premier plan, enfin, en plan moyen, et qui jouxte la robe de la jeune femme, et fait exactement le même tissu que la robe de la jeune femme. Et si vous regardez, ce angle de lit, c'est un genou. C'est un genou. Et à ce moment-là, il apparaissait étrangement que ce rien, en fait, c'était l'objet du désir. Parce qu'il y avait le genou, le sexe, les seins de la jeune femme, et que le grand morceau de velours rouge qui pend sur la gauche, là, et qui repose de façon totalement irréaliste sur une double boule très légère, avec une grande tige de velours rouge qui monte, est évidemment une métaphore du sexe masculin. Il n'y a aucun doute. Je crois que moi, il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, dès lors que je le dis aussi grossièrement, bien sûr, ça dénature le tableau, parce que ce tableau ne dit rien. Il n'y a rien, justement. Mais bon, on voit ou on ne voit pas, on a envie de voir, on n'a pas envie de voir, ou on peut voir, ou bien on ne peut pas voir, ou on peut ne pas voir. Bon, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a quelque chose qui est proposé. Et c'est exactement ça, je crois, la peinture. C'est à la fois ce rien, cette partie gauche du verrou de Fragonard, c'est un détail. C'est un détail qui prend la moitié du tableau. Mais ce détail, de moitié du tableau, est fait d'un tas de détails, eux-mêmes, qu'on pourrait démultiplier. Bon, mais ce détail, bon, c'est pratiquement rien, c'est quand même la moitié du tableau. Et en même temps, tout ce que je peux dire, c'est de dire, c'est le lit en désordre, le baldaquin, où je commence à nommer la chose, et à ce moment-là, je vois une vulgarité qui ne correspond pas du tout au tableau. Et ce n'est rien d'autre que de la peinture. C'est du drapé. Le drapé, on sait bien que c'est le comble de la peinture. En fait, ce qui m'a passionné aussi dans le Fragonard, c'est que, précisément, j'étais affronté à l'innommable. C'est-à-dire, nommer le lit comme genou, sexe, sein, sexe masculin dressé, c'est innommable. C'est-à-dire, c'est scandaleux. Parce que, précisément, c'est ce que fait pas le tableau. Il ne le dit pas. Il ne montre même pas. À moi de le voir ou de ne pas le voir. Et donc, je suis affronté à l'innommable parce que, précisément, la peinture, je veux pas dire indicible. Parce qu'indicible suppose quelque chose de supérieur, qui serait supérieur à tout ce qu'on pourrait dire. Non. Je dis innommable dans ce sens qu'on ne peut pas le nommer. C'est en deçà du verbal. C'est en deçà du verbal. Et pourtant, ça travaille. Ça travaille la représentation, et dès que je le nomme, je perds cette qualité d'innommable de la peinture elle-même. Et je crois que c'est là que se trouve, c'est vrai, un des ressorts de la passion des historiens de l'art pour la peinture, pas seulement la mienne, mais des historiens de l'art en général, c'est que fait un historien comme ce que je fais en ce moment? Il discourt, il fait du discours, il produit des mots, il a un procès verbal de la peinture, il a un procès verbal de quelque chose qui échappe à tout procès verbal. Dans les deux sens du terme, du processus verbal, hein, et du procès-verbal comme on dresse procès-verbal. Un agent dresse procès-verbal. Eh bien, essayez de dresser procès-verbal d'un tableau, vous n'y arriverez pas, parce que vous n'obtiendrez rien par rapport au tableau. Et donc, le résultat de cet innommable de la peinture, dont le Fragonard me paraît un bon exemple, c'est que la peinture est toujours dans le statut d'objet du désir, puisque je prends comme objet d'étude d'écrire ou de parler sur la peinture, qui est ce qui échappe précisément à l'écriture ou au discours. Donc, la peinture reste toujours objet du désir. C'est plus j'en parle, plus je serai amené à en parler. C'est inévitable, puisque précisément, à chaque fois que j'en parle, je la restaure comme ce qui échappe à ce que j'en dis. Et je me suis demandé même si cette fascination pour la peinture avait pas quelque chose de l'enfance, hein, quelque chose une sorte de regard enfantin. Hein, vous savez, Baudelaire dit, il faut regarder les choses en nouveauté, les regarder en enfance, retrouver un regard d'enfance. C'est-à-dire ce regard où, avant le langage, hein, où on ne peut qu'imaginer, puisque l'enfant ne dit rien. Mais quand on l'observe, on devine des choses, hein, où le monde, le réel, on va dire, le réel est encore du réel. Il n'est pas devenu un monde. Hein, c'est encore du réel, c'est encore un flux, c'est du continu, il n'y a pas de rupture, sans découpe, sans grille. Et toutes ces découpes, les grilles, que viendront mettre les mots, hein, qui fera nommer dans le flux du réel, nommer les choses et organiser progressivement le réel en monde. Eh bien, j'ai le sentiment, personnellement, que la fascination pour la peinture, elle a quelque chose. Et pour le fait que la peinture, ça n'est pas du procès-verbal et que la couleur, c'est du continu, il n'y a pas de rupture dans un tableau, ça se continue. Cette fascination première est de l'ordre de la fascination du regard de l'enfant devant le réel, pas encore devenu monde. Bon. Et l'idée me paraît intéressante, enfin, elle me tente, j'ai envie d'y réfléchir en ce moment, parce que ça expliquerait aussi pourquoi assez souvent l'historien de l'art, il accumule. Hein, il accumule les détails iconographiques, un thème, il va chercher tous les thèmes possibles, tous les sens possibles du thème qu'il étudie, etc. Bon, et personnellement, par exemple, j'accumule les détails. Hein, le nombre de détails, j'en ai utilisé pas mal dans le livre sur les détails, mais j'en ai autant. J'ai autant de fiches en utilisées que de fiches utilisées. Donc je préfère un deuxième livre sur les détails, mais ça ne servirait à rien. De toute façon, le premier a déjà été fait, je dirais, dans le fond, avec d'autres exemples, la même chose que dans le premier. Mais je pourrais parler, je ne sais pas, bon, mais sur, enfin, je pourrais les accumuler. On préfère une liste un peu surréaliste. On dirait, bon, bah, y a par exemple une violette, hein, et je pense à tel tableau. Ou bien, un œillet, et je pense à tel tableau. Je pourrais dire, il y a une mouche. Bon, ça, bien sûr, moi, je dirais, il y a deux mouches, par exemple, au lieu d'une. Bon, ce sera tel tableau, ou la mouche dans tel tableau, c'est plutôt bizarre. J'ai pas mal de mouches comme ça en réserve. Hein. Bon, ensuite, bon, l'escargot, bien sûr. L'escargot, j'ai un beau tableau avec un escargot très très intéressant. Ce que je pourrais dire encore, oui, un cordon ombilical. Hein, j'ai un joli cordon ombilical dans ma collection. Bon, il est pas dans un bocal, il est vraiment dans une diapositive. Enfin, il est dans un tableau qui est à Sienne, au premier étage de la Pinacothèque. C'est pas vraiment une collection de détails, c'est une accumulation enfantine, hein, comme l'enfant, alors plus grand que juste le nouveau-né ou le nourrisson, mais quand il se promène et qu'il ramasse des petits morceaux de tout. Là, il ramasse un morceau d'écorce, un peu de caillou, une plume d'oiseau, et puis il garde ça éventuellement précieusement. Il accumule tout ça. Bon, et il y a un aspect un peu enfantin, je crois, dans cette curiosité, hein, grosso modo. En un mot, devant les tableaux. Et alors, parmi les objets, je veux dire, de peinture que je trouve particulièrement fascinants, je dirais qu'il y a évidemment le miroir. Hein, le miroir, parce que, bah pour un tas de raisons. Hein. Et la première raison, c'est qu'il est bien fondé, comme historien, de s'intéresser au miroir. Pourquoi ? Bien parce que le miroir est un modèle du peintre. Hein. C'est un modèle du peintre classique, hein, un modèle et un correcteur du peintre. Hein. C'est Alberti qui dit, non seulement que Narcisse était l'inventeur de la peinture, parce que qu'est-ce d'autre que peindre, sinon embrasser l'ensemble de la surface de la source, c'est-à-dire qu'il travaille comme un miroir, mais Alberti dit aussi que le peintre doit utiliser le miroir pour vérifier ses tableaux, et il dit, il est étrange de voir comment les choses bien peintes acquièrent de la grâce dans le miroir, ce qui est mieux que la beauté, hein. La grâce n'est pas la beauté, alors que celles qui ont un défaut y apparaissent comme plus affreuses. Donc le miroir est un transformateur de la peinture dont, dès le 15e siècle, on a conscience, hein, de son rôle à la fois de maître, de modèle, et curieusement de, je sais pas très bien comment dire, mais de quelque chose qui fait surgir, hein, le tableau, plus encore que le tableau lui-même. Ensuite, on savait qu'ils utilisaient des miroirs, hein, que certaines perspectives courbes, par exemple du 15e siècle flamand, sont seulement dues au fait que dans les ateliers, un des outils, c'était le miroir, et non pas le miroir droit, qui était enfin plan, un miroir convexe, et que le peintre regardait la réalité dans le miroir convexe pour la peindre éventuellement. Donc certaines perspectives courbes sont directement liées à l'emploi de miroir court. Donc le miroir est un objet pour lequel il est parfaitement légitime de se passionner quand on est historien. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont travaillé sur le miroir. Hein, c'est un des éléments les plus travaillés de l'histoire de la peinture. Et moi, ce qui m'intéresse dans le miroir en particulier, c'est que c'est le miroir en tant que il nous montre. Le miroir montre toujours l'envers des choses. Hein, quand il montre l'autre côté des choses, c'est-à-dire que un miroir vous renvoie. Si par exemple vous avez un personnage devant un miroir, eh bien vous verrez dans le miroir ce que vous ne voyez pas du personnage. Vous verrez son dos. Par exemple, vous verrez son autre profil. Je pense à Madame Moitessier. Madame Moitessier nous regarde. Eh bien, dans le miroir qui est derrière elle, nous voyons sa nuque. Elle a une très jolie nuque, Madame Moitessier. C'est peut-être pour ça qu'il y a une tache sur sa robe, Madame Moitessier. Bon. Donc, il y a un miroir. Et le miroir montre toujours ce que nous ne voyons pas de ce que nous voyons. Ce que nous ne voyons pas dans ce que nous voyons. Et là, les peintres ont eu parfaitement conscience aussi, ils l'ont parfois tout à fait utilisé. On a évoqué les Ménines de Velázquez et le problème du miroir, justement. Le problème du miroir des Ménines, c'est que c'est un miroir idéal et non pas un miroir réel. Et que donc, ce qu'on y voit, comme l'a dit Foucault, il ne reflète pas ce qu'il devrait, ce miroir. Donc, à la fois, on y voit le roi et la reine qu'on ne devrait pas voir, hein, et on n'y voit pas ce qu'on devrait y voir, hein, parce qu'il ne reflète que le roi et la reine. Et là, le miroir devient un objet fascinant, où l'envers travaille ce qui se voit. C'est-à-dire que ce qui ne se voit pas travaille ce qui se voit dans la peinture. Et parmi ces miroirs, il y en a une quantité évidemment considérable. Il y en a un qui me plaît particulièrement, parce que j'ai un faible. C'est un miroir, un tout petit miroir ovale, enfin en peinture, il est vraiment minuscule, il doit faire quelque chose comme, je dirais 5 cm de haut. Hein, il est censé représenter un miroir un peu plus grand tout de même, et il est présent dans une Immaculée Conception d'un peintre, alors aujourd'hui peu connu, c'est Garofalo, hein, qui veut dire œillet. Hein, Garofalo. C'est pour ça que d'ailleurs je disais que j'ai quelques œillets dans ma collection, parce que Garofalo signait des tableaux sous forme d'un œillet. Hein, bon, et s'il ne met pas un œillet, ça veut dire quelque chose. Bon, et alors, donc il y a Garofalo, une Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est la Vierge en tant qu'elle a été conçue sans tâche. Hein, et donc il y a les attributs de l'Immaculée Conception, parmi lesquels alors, la tour, le jardin clos, etc., et le miroir sans tâche. Bon. Ce miroir de l'Immaculée Conception est donc un attribut tout à fait normal, classique, attendu, hein, de la Vierge. Simplement, j'ai eu l'œil attiré, allez savoir pourquoi, par le fait que de loin, parce que le miroir, encore une fois, dans le tableau, il fait 4 cm de haut, pas plus, hein, ou peut-être 5. Et de loin, tiens, j'ai vu tout de suite, bon, miroir sans tâche, l'historien reconnaît, j'avais pas vu ce tableau, mais je savais, l'Immaculée Conception, c'est bon, pas un tableau sans intérêt particulier, d'ailleurs, tableau franchement moyen. Bon, et de loin, tiens, mais il y a une tache, en fait, parce que, eh oui, alors je m'approche, et bien sûr, la tache était une sorte de coulée blanche, hein, et qui est nécessaire pour indiquer miroir. Ce n'est pas vraiment une tache, c'est une fausse tache. C'est une tache, puisque c'est une coulée blanche. Mais en fait, c'est une tache transparente iconiquement, hein, puisqu'elle signifie miroir. Elle signifie objet réfléchissant. Bon, mais en fait, pas une qui est troublante. Mais par contre, en m'approchant du tableau, et en étant alors là vraiment plutôt près, hein, genre 70 cm du tableau, hein, je vous dirai après où était ce tableau à l'origine. Mais à 70 cm du tableau, je me dis, tiens, mais il y a une deuxième tache, hein, obscure. Donc il faut imaginer ce petit tableau, ce petit miroir ovale, sombre, la coulée blanche indiquant reflet, puis dans le son, dans le noir du miroir, une sorte de vibration du noir. Je me suis approché, et là, il y avait un portrait. Hein, il y avait un portrait et un visage. Un visage qui me regardait très tranquillement depuis... alors, le tableau était peint en 1535, quelque chose comme ça. Donc, ça faisait combien de siècles, 4 siècles et demi, que ce visage était là, regardant, sans personne le voit, hein, la personne qui regardait le tableau. Et là, j'étais vraiment surpris. J'ai photographié. Hein. Alors, tout de suite, là, j'ai photographié de loin, de près, je me suis approché, plusieurs, parce que c'est tellement inattendu, parce que c'est scandaleux. Hein, c'est scandaleux, parce qu'on pense autoportrait du peintre, c'est là la place dans un miroir. Or, faire son autoportrait dans le miroir sans tache de la Vierge, c'est vraiment une souillure, sacrilège. Or, c'est de la part de Garofalo, qui par ailleurs était un dévot de la Vierge. Donc, comment se fait-il que Garofalo ait bien pu peindre son autoportrait dans ce miroir? Alors, j'étais ravi, parce qu'en plus, aucun des conservateurs de la Galerie Bellara n'avait jamais vu ce visage dans ce miroir, et c'est quand même surprenant, parce que ça fait un siècle et demi, plus près de 2 siècles que le tableau était accroché à la Brera. J'ai finalement trouvé des sortes d'explications, etc., mais ce qui m'a le plus étonné, c'était le fait que ce visage avait été peint vraiment pour ne pas être vu. Parce que le tableau, nous le voyons maintenant à la Galerie Brera de près, avec un éclairage normal, mais il était fait pour la partie cloîtrée de l'église du couvent de Saint-Bernardin de Ferrare, pour les sœurs de Saint-Bernardin, donc franciscaines. À Ferrare, une partie de l'église était réservée aux religieuses, et c'est sur un des autels de cette partie fermée d'église qu'était l'Immaculée Conception. Or, si vous connaissez les rituels des messes dans les couvents féminins, les sœurs n'ont pas... c'est pas elles qui célèbrent la messe, hein, il n'y a que le prêtre qui peut célébrer la messe, donc elles voyaient le tableau nécessairement de loin, ne s'approchaient pas de l'autel, et donc il était impossible qu'elles voient ce visage, absolument impossible qu'elles voient ce visage, et pourtant, Garofalo l'a peint, lui, dévot de la Vierge. Donc, oui, alors, voilà, alors, voilà un détail, je pourrais continuer, parce que c'est une histoire qui me fascine, dans la mesure où, en plus, ce tableau a été donné gratuitement par Garofalo aux sœurs de Saint-Bernardin, et donc il y a des enjeux tout à fait extraordinaires. Ce n'est qu'un détail hein, dans la collection de détails qui peuvent, enfin que j'ai pu accumuler. Alors cette histoire de Garofalo, bon, elle pourrait continuer longuement parce que c'est une histoire à rebondissement et franchement à surprise, hein, à grosse surprise. Bon, mais revenons au miroir. Garofalo, c'est pas n'importe qui, c'était un ami de Giorgione, hein, le grand Giorgione, le gros Georges, si vous dire Giorgione, hein, le gros Georges. Bon, or Giorgione a peint un Saint Georges. Enfin, Giorgione est censé avoir peint un Saint-Georges, parce qu'on n'a aucune trace de Saint-Georges, mais parfaitement décrit. Hein, un Saint-Georges ou Saint-Georges au bord d'une fontaine, donc d'un miroir d'eau, ayant déposé son armure, on voyait le Saint-Georges à la fois de face, de profil, d'en dessous dans la fontaine, et de dos dans l'armure posée contre un arbre. C'est-à-dire que Giorgione avait démontré la supériorité de la peinture par rapport à la sculpture, puisqu'elle peut tout montrer, tous les aspects d'un seul coup d'œil. Le miroir montre l'envers de ce qu'on voit. Bien, ce tableau de Saint-Georges par Giorgione, il se trouve qu'il ressemble étrangement à la description d'un tableau de Van Eyck par Bartolomeo Fazio au XVe siècle. En fait, c'est un topos, c'est un lieu commun. Je suis persuadé personnellement que le tableau de Giorgione n'a jamais existé, mais qu'on lui attribue le tableau qu'aurait dû peindre Giorgione. Et la meilleure preuve, ce qui me paraît moi très convaincant, c'est que si on suit l'histoire du Saint-Georges de Giorgione au travers du XVIe siècle, on va le voir progressivement se transformer. Au départ, c'est Saint-Georges qui a déposé son armure, ensuite c'est Saint-Georges qui est nu, c'est assez rare, hein, Saint-Georges nu, franchement, et puis après, ça devient une jeune femme nue au bord d'une fontaine, et Cello Mazzo, toujours attribué à Giorgione, c'est la peinture nue à la source. C'est-à-dire qu'on passe, hein. Et donc le miroir. Oui, là, c'est vraiment. Je trouve la série admirable parce qu'elle nous montre comment, dans le topos hein, du reflet dans le miroir du Saint Giorgione, on va dire, finalement, ce qui se jouait, c'était la source même de la peinture, hein, l'origine même de la peinture mise à nu, hein, c'est-à-dire dans sa capacité de faire oublier qu'il y a tout auteur, hein, d'être simplement, un reflet, du moins une sorte de magie du monde. Et voilà, encore un détail. Mais là, le détail est fascinant puisqu'il n'existe pas, puisque le tableau n'a jamais existé. Donc c'est magnifique qu'on ait pu faire au XVIe siècle l'histoire très détaillée d'un tableau dont on décrivait les détails alors que personne n'avait jamais vu. C'est un peu comme les sourcils de la Joconde. Hein, dont Vasari dit qu'ils sont peints sourcil à sourcil, alors qu'en fait, elle n'a pas de sourcils.